avec lui. Au quotidien, 5e édition, avec Francine Forget et Yvan Deslauriers.
Bonjour, chers auditeurs. On est aujourd'hui vendredi 16 septembre. On parlera de la température dans quelques instants. Ici Yvan Deslauriers et je suis évidemment avec Francine Forget. Bonjour, Francine.
Bonjour, Yvan. Comment ça va?
Oh mon Dieu, que ça va bien quand je viens ici.
Ah, tant mieux. La semaine dernière, j'ai expliqué votre absence brièvement. Je me disais avant qu'on ait un tollé là et qu'on nous dise encore en vacances. Alors, j'ai dit que vous n'étiez pas en vacances. Au contraire, que vous travailliez pour nous et que si vous aviez le goût d'en parler aujourd'hui, ben vous étiez pour en parler.
D'accord. Ben, je pense que techniquement, j'ai pas le droit d'en parler.
Alors, on n'en parle pas.
Mais je peux juste dire que quand vous allez aller voter dans les prochaines semaines, jusqu'au 3 octobre, il va y avoir différentes occasions pour aller voter. L'organisation de l'événement qui fait que vous mettez un X sur un petit papier, que vous mettez le petit papier dans une urne, c'est assez complexe faire ça. Alors, c'est là-dessus que je travaille.
Bon, mais quand je serai dans l'urne, je penserai à vous.
Vous ne serez pas dans l'urne, j'espère, pour vous, mais pensez à moi quand même.
Dans l'isoloir?
Oui, dans l'isoloir.
OK!
Alors, c'est un superbe de vendredi. Si on peut dire notre opinion à quelqu'un en haut, moi, je dirais « toucher à rien
». Ce ne sera pas le cas, Yvan.
C'est très bon.
Ça ne sera pas le cas, malheureusement, parce qu'en en fin de journée, demain, on annonce de la pluie. Et dimanche.
C'est demain, ça.
Est un autre jour.
Dimanche, je travaille. Alors, il peut pleuvoir. On est avec Mathieu.
C'est moi, ça.
Qui a mis son grain de sel dans cette émission. Bonjour, Mathieu.
Bon matin, tout le monde.
Bonjour. Et on a un invité. Hein?
J'ai un superviseur à côté de moi.
Oui, hein, qui vient de l'Université de Montréal. C'est ça qu'on m'a dit.
Eh oui.
Alors, on n'a qu'à bien se tenir, Francine.
Ben, il faut être gentil avec Alban.
Oui,
parce
c'est ça.
Que il y a quand même certaines connaissances, compétences en journalisme, puisqu'il étudie à l'université là-dedans.
Lui, il a des compétences.
Et puis, il nous observe. Ah, oui. Mais moi, j'ai fait un cours en journalisme.
Ah, moi, pas du tout.
Ah, voilà.
J'ai un cours en statistique. Puis là, je sens que Mathieu va ajouter quelque chose. Vas-y.
Non, moi, j'ai rien à dire. Je ne sais pas pourquoi j'ai ouvert mon micro, dans le fond.
Ah, vous avez toujours des belles remarques. Je m'attendais à quelque chose d'assez fantastique.
Nuançons.
D'accord. Alors, si on lançait ça, mes amis, on commence par les faits saillants de la semaine de Francine.
En fait, je n'en ai qu'un seul pour une fois, mais qui se dédouble. J'essaierai d'être plus brève. Sérieusement, je suis allée au WordPress Photo la dernière fois qu'on était ensemble, on en a parlé. Et bon, je vous avais dit, je vais y aller. Vous disiez, ah, des fois, c'est un petit peu, c'est un peu dur.
Il faut avoir, faut être un peu guilleret pour y aller parce que
mais j'étais pas dans cet état-là et je dois vous dire que j'ai essayé de regarder ça d'un autre œil. Et comme à l'habitude, c'est quelque chose de magnifique, vraiment. C'est un contact avec la réalité internationale.
Oui.
Ça nous fait saisir la vie d'ailleurs. Et je vous disais que oui, il y a des scènes qui sont terribles. Il y a des conflits dont on parle peu dans les médias. On en parle beaucoup. Et plus, bon, après un certain temps, on passe à autre chose. Mais aussi, ça nous fait comprendre le day-to-day, là, je m'excuse de l'expression, de ce que vivent ces gens. Et je pense, entre autres, à une jeune fille qui est dans son lit, qui ne veut pas se lever, une magnifique photo. Mais en fait, c'est qu'elle n'est pas motivée pour étudier à la maison. Et ça se passe dans un pays d'Afrique, là. Alors donc, on n'est pas du tout dans la même... on n'est pas dans une situation qui nous est inconnue. Au contraire, c'est une réalité qui se rapproche de la nôtre.
Beaucoup.
Mais évidemment, le décor, l'environnement, c'est tout à fait différent. Il y a aussi de belles photos qui créent de l'émotion, comme d'habitude. Quand je parle de belles photos, c'est qu'elles sont esthétiquement réussies. Ce sont des photos qui nous interpellent. Et il y a ce projet particulier dont je vous avais brièvement parlé, quand on a souligné cet événement, le projet qui s'appelle Iqwaq, femme en langage... c'est un langage autochtone, mais je ne sais lequel et je ne voudrais pas faire erreur ici, dont la porte-parole de cette partie de l'exposition est l'artiste métiste Caroline Monet. Et ce sont des photos de femmes de Première Nation. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que ça coupe avec le rythme puisqu'elles sont imprimées directement sur le mur.
Oui.
Alors, ça crée...
sur le papier?
Non, ça crée vraiment... C'est vraiment quelque chose d'intéressant. C'est, j'imagine, grandeur nature. Ce que je dois souligner, c'est que pour une visite réussie, il y a évidemment le code QR à scanner à l'entrée. Donc, il y a la visite audio qui est possible et c'est évidemment bien expliqué.
Qu'est-ce qu'on entend? Est-ce que c'est un descriptif des photos ou c'est une musique ambiante?
Non, c'est pas de musique d'ambiance. Il y a de descriptions, il y a un peu de tout. Mais aussi sur les affiches, les descriptions sont vraiment très claires. Je vous dis, je fais une pierre de deux coups parce que je m'étais procuré, avant d'entrer, un exemplaire de l'itinéraire.
Ah oui.
Qui a fait un magnifique reportage là-dessus, le grand retour du WordPress photo. Et je vous invite, si vous allez voir le WordPress photo, à acheter l'exemplaire de l'itinéraire. Premièrement, si vous ne connaissez pas, vous allez le connaître. Et deuxièmement, au-delà de ce dossier, il y a aussi un thème qui revient souvent, qui fait l'objet d'un grand reportage, qui revient souvent dans les médias, pénurie de main-d'œuvre, mais cette fois au BNL. Alors, il y a toujours un petit point de vue différent dans cette revue. Et je le répète, je trouve qu'ils ont saisi très bien l'essence du WordPress photo de cette année.
Oui, moi, ce qui me frappe, je ne suis pas allé à celui de cette année, là, mais je suis allé à d'autres expositions du WordPress photo. C'est qu'on est dans un monde d'images en mouvement. Et là, on arrive dans une exposition où les images sont fixes. Et on est comme obligé de s'arrêter, de regarder l'image et de se positionner par rapport à ce qui est présenté.
Et ça nous permet aussi de comprendre qu'il y a beaucoup d'événements dont on ne parle pas dans les médias, malheureusement, sur le plan international.
De mon côté... un petit événement plutôt personnel, c'est que mardi, en m'en retournant vers la maison, il y a des voisins qui m'ont appelé pour me dire « Tu devrais arriver vite parce qu'il y a de l'eau qui monte. » Alors, moi, je demeure à...
« Take a kayak?
» Ils ne sont pas rendus jusque-là. Ça a arrêté « Take my bike » dans mon cas. Mais moi, je demeure pas près d'un cours d'eau. Je demeure au centre de l'île de Montréal, vers l'est. Puis, de voir l'eau comme ça, c'est un peu surprenant. Et d'entendre les doléances des municipalités qui veulent moderniser leur infrastructure, on peut comprendre. Parce que ça donne un mini-choc. Moi, je n'ai pas été vraiment touché. Il y a un peu d'eau qui était rentrée dans le garage à peine, mais quand même. L'autre chose qui m'a vraiment frappé, c'est hier, c'est quand Roger Federer a annoncé qu'il se retirait. Et là, je ne sais pas si vous êtes une amateur de tennis, chère Francine.
Oui.
Alors, voici le classement actuel de l'ATP. Le premier joueur s'appelle Carlos Alcaraz, qui vient de gagner le US Open il y a 19 ans. Le deuxième joueur, Casper Ruud, qui était le finaliste, 23 ans. Là, il y a une aberration, Rafael Nadal, 36 ans. Après, c'est Daniil Medvedev, qui était le premier tantôt. Lui a 26 ans, il commence à être vieux. Alexander Zverev, 25 ans. Stefanos Tsitsipas, 24 ans. Vous me voyez venir. Peut-être que... Puis là, on peut parler de Félix Auger-Aliassime.
Oui, qui est le 8e, toujours.
Non, il est rendu 12e.
Oh!
Parce qu'il a perdu des rangs à cause de son résultat. Il a 22 ans. Puis il y a notre ami aussi, Denis Shapovalov, qui doit avoir 23 ans ou quelque chose du genre. Alors, on est peut-être en train d'avoir une nouvelle génération de joueurs de tennis et le nom va faire que ça va être vraiment intéressant à suivre. Mais merci à Roger Federer parce qu'il a vraiment porté le flambeau très haut pour parler des Canadiens. Et c'était vraiment intéressant de le suivre. À l'émission aujourd'hui.
dans l'émission aujourd'hui. Alors évidemment, on a nos chroniqueurs. Vous allez recevoir Serge Hamelin, qui va nous parler de lavage et microfibres. Mm-hmm. De mon côté, Marcel Dugas, notre historien, qui va nous amener au temps de la colonisation dans une ville, à mœurs très légères. Je vous dirais ça comme ça.
Ouais.
On verra. Je vais vous parler d'Internet, de comment choisir la bonne vitesse et pas payer pour rien.
Trop cher. Et moi, je parle avec Steve Joseph de la Fondation des aveugles du Québec. Il y a plein de nouvelles affaires qui commencent du côté de la Fondation, un nouveau calendrier pour du côté habitation et un nouveau calendrier loisirs. Il va nous parler de ça avec son enthousiasme habituel. Et nous, on part ça en musique.
Tu m'as dit que j'étais faite pour une drôle de vie. J'ai des idées dans la tête et je fais ce que j'ai envie.
Je t'emmène faire le tour de ma drôle de vie. Je te verrai tous les jours.
Et si je te pose des questions,
qu'est-ce que tu diras?
Et si je te réponds,
qu'est-ce que tu diras?
Si on parle d'amour,
qu'est-ce que tu diras?
Si je sais que tu m'aimes, la vie que tu aimes au fond de moi me donne tous ses emblèmes, me touche quand même du bout de ses doigts. Même si tu as des problèmes, tu sais que je t'aime, ça t'aidera. Laisse les autres totems, tes drôles de poèmes et viens avec moi. On est partis tous les deux pour une drôle de vie. On est toujours amoureux et on fait ce qu'on a envie.
Tu as sûrement fait le tour de ma drôle de vie. Je te demanderai toujours.
Oh, si je te pose des questions,
qu'est-ce que tu diras?
Et si je te réponds,
qu'est-ce que tu diras?
Si on parle d'amour,
qu'est-ce que tu diras?
Et si je sais que tu m'aimes, la vie que tu aimes au fond de moi me donne tous ses emblèmes, me touche quand même du bout de ses doigts. Même si tu as des problèmes, tu sais que je t'aime, ça t'aidera. Laisse les autres totems, tes drôles de poèmes et viens avec moi. Quand même du bout de ses doigts. Même si tu as des problèmes, tu sais que je t'aime, ça t'aidera. Laisse les autres te t'aiment, tes drôles de poèmes et viens avec moi.
La catégorie des chansons qu'on pourrait prendre pendant plus longtemps, je pense.
Oui, tout à fait. C'est une suggestion de Maurice Bolduc.
Bonne suggestion, Maurice.
Oui, merci beaucoup. Et c'était Drôle de vie de Véronique Sanson et Vianney. Et c'était une drôle de vie dans le studio. On dansait, on tapait du pied, voilà. Je ne sais pas qu'est-ce que notre ami Alban va penser de
il
ça.
Il prend des notes.
Sais, dans notre bulletin tantôt, là, ça va paraître. Allez, Francine.
Ça va paraître surtout que je commence par une entorse, en fait.
Vous avez trop dansé,
pas, voilà. Je ne commencerai pas par la manchette unanime de nos médias.
Oh, attendez,
mais
que
je vais faire du pouce sur ce que vous avez dit, comme on dit en bon français. Vous avez parlé de Roger Federer.
Oui.
D'ailleurs, c'est une petite entorse parce que c'est à la une de la Presse
oui,
Plus.
Oui,
Roger Federer qui se retire, qui prend sa retraite, et la chronique de Philippe Quentin qui s'intitule « Le Jean Béliveau du tennis ». Et il dit, en fait, toute sa chronique se résume avec son troisième paragraphe, « Élégance sur le terrain, élégance hors du terrain ». C'est ainsi qu'on peut résumer la formidable carrière de Roger Federer.
Et il était bon.
Oui. Oui.
Son coup du revers, là, c'était quelque chose.
Les matchs avec Nadal,
oh, mon
c'est
Dieu,
de
oui,
l'anthologie.
Oui, oui. à Wimbledon, là, 5-7.
Je pense que le mot est pas trop fort. Alors, revenons à la réalité à la vraie manchette, entre
que
guillemets.
Que s'est-il passé hier?
Hier, il y a eu un débat. Hein, on est en élection au Québec et il y a eu un débat à TVA. Et il y a énormément de commentaires qui ont ressurgi. Comme à l'habitude, chacun y vote son opinion. Je parle de nos chroniqueurs et éditorialistes.
Varié.
C'est assez varié, mais il y a quand même une petite...
Unanimité?
Pas unanimité, mais il y a comme, je dirais, un lead, comme on dit en journalisme, justement. Et je veux vraiment impressionner Alban, moi, aujourd'hui.
Oui,
Je sors tout ce que je connais. Vous sentez ça, hein?
Oui.
Alors, je dirais qu'on a, en tout cas pour plusieurs chroniqueurs, on a été impressionnés par les plus jeunes candidats, puisqu'on parlait de jeunesse au tennis.
Mm-hmm.
Et je parle évidemment de Gabriel Nadeau-Dubois et de M. Saint-Pierre Plamondon. Du côté de la presse plus, Paul Journet, je vais retenir le papier de Paul Journet, qui, en fait, lui aussi, il y a vraiment le sens du punch et du résumé, qui dit que Legault a été irrité pendant ce débat. Duhem normalisé et Anglade sonné. Alors, c'est ainsi qu'il résume le débat. En fait, pour Saint-Pierre Plamondon, il dit qu'il n'a pas été gâté par le hasard. Il a dû répondre à d'étranges questions, mais quand même qu'il a été studieux et poli, puis qu'il a essayé d'élever le débat. Et du côté de Nadeau-Dubois, il dit qu'il a dû réagir à chaud au défi du chef péquiste. C'est prononcé le titre du livre de Pierre Vallière, contenant le mot qui commence par un N.
Mm-hmm.
Et je vous lis ça parce que je trouve que ça donne un peu le ton parfois qu'avait le débat. Chercher de la controverse peut-être, plus qu'à informer.
Ou à nous vendre une direction qu'un parti voudrait prendre peut-être. On cherche plus à dénigrer l'autre.
Peut-être. C'était particulier. C'était particulier. Il faut dire qu'il y avait 5 intervenants. Ce qui est plutôt rare. Dans le Journal de Montréal, on dit « Les couteaux volent bas, attaquer le goût résiste, Gabriel Nadeau-Dubois et Duhem marquent des points. » Alors, on a oublié M. Saint-Pierre Plamondon ici. Il y a beaucoup de commentaires parce qu'il y a beaucoup de chroniqueurs
dans
le journal, comme on sait. Mais j'en ai retenu 2. José Legault. Qui pourra fédérer le vote non caquiste? Il y a un gros point d'interrogation, c'est vraiment une question. Elle dit que pour de nombreux électeurs, le face-à-face, ça marque le début de la vraie campagne, parce que dans le dernier sondage de Léger, 34% des répondants disaient qu'ils pourraient même le faire changer d'allégeance, l'écoute de ce débat. Mais elle conclut en disant que, bref, à moins d'un revirement spectaculaire d'ici le soir du 3 octobre, les forces respectives des 4 chefs sont telles que, face à la CAQ, aucun ne pourrait vraiment fédérer les électeurs non caquistes. Du côté aussi, toujours dans le Journal de Montréal, Thomas Mulcair, qui fait une évaluation peut-être différente, un peu de l'ensemble des autres chroniqueurs. Et lui, il n'est pas prêt à dire que Gabriel Nadeau-Dubois a pu tirer vraiment son épingle du jeu. Il a trouvé que Legault, qui a été critiqué, n'a pas eu droit à des attaques personnelles de Nadeau-Dubois, comme il en a fait à l'endroit de d'autres chefs, dont M. Saint-Pierre Plamondon. Alors bref, pour lui, c'est un moment charnière dans la campagne et M. Legault semble s'en être tiré pas trop mal, selon lui.
Mais il y a un nouveau débat, je pense, qui s'en vient la semaine prochaine, hein, à
Radio-Canada. À Radio-Canada, oui. Effectivement. Dans Le Devoir, bien aussi, évidemment, c'est la manchette. Les chefs jouent du coude et on retient 2 thèmes, l'immigration et la langue, qui ont surtout nourri les échanges, parfois cacophoniques, hein, comme on le dit, lors d'un premier débat de la campagne électorale jeudi soir. Marco Belair-Cérineau, François Carabin et Alexandre Robillard, donc ils étaient 3, pour couvrir l'événement. Sur l'immigration, ben, on dit que François Legault a défendu sa décision de maintenir un nombre, hein, à 50 000 par année. Paul Saint-Pierre Plamondon, lui, a rappelé qu'il voulait réduire ça à 35 000. Et du côté de Québec solidaire, bien, on mise sur la régionalisation de l'immigration et la francisation en milieu de travail. Donc, un débat mur à mur ce matin dans les médias.
Merci, Francine. D'accord. Alors, avant de pouvoir parler à Francine, je vous parle de Oh, elle est là. Alors, on s'en... on parle à Francine depuis le début.
On a oublié de la présenter en début d'émission, Monique Kerouac. Et là, on la confond. Oh, vraiment, pauvre Monique.
Oui, je le sais. J'ai mes excuses à lui transmettre. Bonjour, Monique.
Bonjour. Ça va bien?
Oui, on travaille très fort sur vos présentations, hein? D'une semaine à l'autre.
Et vous voyez qu'on s'améliore quand même, Monique.
On n'arrête pas. qu'est-ce qui se passe du côté de votre canton de l'Est, chérie?
Oui, ah ben, une nouvelle colorée en premier lieu.
Oui.
L'été prend fin, bon, la semaine prochaine, je pense. Le paysage change encore plus dans les prochains jours. Alors, l'Estrie passe donc en mode flambée des couleurs. Il y a de multiples activités qui se tiendront au cours des prochaines cinq fins de semaine pour cet événement annuel qui a lieu dans le secteur Magog-Orford. Alors, ça part de ce week-end, en fait, du 16 septembre jusqu'au week-end du 16 octobre. Alors, vous pourrez, par exemple, réserver des billets pour effectuer la traditionnelle balade en télécabine au Mont Orford. Mm-hmm. Peut-être que vous voudrez visiter le marais de la rivière aux Cerises, qui comporte quand même 4,5 km de sentiers aménagés. Et pourquoi pas pour les amateurs d'histoire, le circuit pédestre guidé et animé, histoire et anecdotes du centre-ville, et ça, ce sera le 9 octobre. Alors, pour plus d'informations sur toute la liste des activités, vous n'avez qu'à consulter le site laflambeedescouleurs.ca. Mm-hmm. Sur une note un petit aussi positive, je dirais, sur le plan environnemental, eh bien, il y a un vaste projet de corridor phonique le long de l'autoroute 10 entre Bromont et Magog, projet piloté par Corridor Appalachien qui a reçu un important appui lundi. En effet, une douzaine de maires de municipalités estriennes se sont ralliés derrière l'initiative en faisant une priorité pour la région. Il faut savoir, Yvan et Francine, que depuis 20 ans, plus de 140 millions ont été investis dans la conservation des milieux naturels en terres privées. Ça équivaut à peu près 16 250 hectares. Et la création d'un vaste corridor d'air naturel qui représente à la fois les plus grands investissements et la plus grande concentration de projets de conservation en terres privées du Québec. Mmh. Alors, les trois corridors permettront la cohabitation des animaux avec les grands axes routiers en aménageant des passages adaptés, soit des tunnels, des ponts et des clôtures le long des voies. Une nouvelle un petit peu moins réjouissante sur le plan de la santé. Depuis près de 2 ans, l'arrivée d'aides de services dans le réseau de la santé a permis à bien des établissements, notamment des hôpitaux et des CHSLD, de garder la tête hors de l'eau. Bien, cela est probablement terminé maintenant puisque le CIUS de l'Estrie s'apprête à couper des dizaines, voire des centaines de ses postes d'ici le début d'octobre. Des collègues infirmières et préposés aux bénéficiaires, entre autres, se disent outrés de cette décision qu'elles qualifient de mauvaise gestion. Il faut savoir que les aides de service assistent, entre autres, le personnel médical pour l'alimentation des usagers, soit hospitalisés, oui, ou en centre d'hébergement. Ces effectifs distribuent les plateaux repas et les collations, nettoient et désinfectent le matériel et des lieux de travail, puis remplissent des chariots. Les aides de service assurent également une vigie auprès de la clientèle et donnent certains types de soins d'hygiène. Une préposée lance un cri du cœur. Dès qu'on commence à avoir le sentiment qu'on pourrait peut-être s'en sortir, le CIUS nous donne une belle tape en arrière de la tête.
Ça, c'est malheureux, oui.
C'est malheureux. Est-ce que j'ai encore un petit peu de temps?
Très petit.
Très petit. Alors, en 43 secondes, sur le plan de la campagne électorale, eh bien, la vague de violence envers les candidats aux prochaines élections a atteint l'Estrie. Si bien que le candidat caquiste dans Orford, Gilles Bélanger, a désormais recours au service de la protection de la Sûreté du Québec. Des situations inquiétantes pour sa famille, vécues dernièrement, l'ont poussé à faire appel à ce service, mais il nous précise que ses activités de campagne ne seront pas impactées par ce service de sécurité. Et voilà, c'était vos nouvelles de l'Estrie, des cantons de l'Est, de ce magnifique lieu de séjour, peut-être, pour vous dans un avenir rapproché.
C'est une invitation, ça?
Ah ben, pourquoi pas?
Je note. Merci beaucoup, Monique, et à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Du côté de l'Outaouais, on note que la pionnière de l'éducation en français et de la lutte pour la reconnaissance des droits des francophones en Ontario, Mme Mariette Carrier-Fraser, est décédée subitement à l'âge de 78 ans hier matin. Elle était originaire de Hearst, dans le nord de l'Ontario. L'enseignante de formation a grimpé tous les échelons du système éducatif provincial pour se retrouver sous-ministre, adjointe, responsable de l'éducation en langue française de l'Ontario en 1983, et c'est sous son impulsion qu'on a créé les 12 conseils scolaires franco-ontariens en 1998. Elle a aussi contribué à la mise sur pied des collèges francophones, dont le Collège Boréal à Sudbury. Et je notais que une de ses citations vraiment intéressante, pendant ses 14 ans, au sein du gouvernement, elle n'a cessé d'œuvrer pour les droits des francophones et elle nous disait « Je ne suis pas là pour représenter les francophones. Je suis là pour m'assurer que quand des décisions sont prises, on tienne en compte les francophones. Ça a toujours été ma marotte », a-t-elle expliqué en entrevue avec le droit en 2015. Et je m'en vais du côté de Québec où, dans le Soleil, on nous dit que la pénurie de personnel n'épargne pas Emma Québec, qui a dû annuler une quarantaine de rendez-vous de dons dans la dernière semaine, faute de main-d'œuvre. Une situation qui se produit épisodiquement depuis le début de l'été, mais qui n'affecte heureusement pas la réserve de sang, assure la porte-parole de Emma Québec. La porte-parole, Mme Larrivée, nous dit que on fait juste des heures plus longues pour pouvoir aller chercher tout ce sang-là. Mais ça se peut que pendant la journée, on a de la difficulté à faire respecter certains rendez-vous. Puis c'est pour ça qu'il y a eu des annulations. Alors, un autre effet de la pénurie de main-d'œuvre. Alors, ça fait le tour des unes à Montréal, Sherbrooke, Ottawa et Québec. Au retour, on va parler de consommation, de lavage et de microfibres. On va aussi parler du village de Roque d'Or, la vie et la mort d'une ville libre. Et c'est ce qu'on vous propose pour la deuxième demi-heure. Alors, vous allez vous chercher un petit jus, un petit café et vous revenez.
Vous écoutez Au quotidien, 5e édition, avec Yvan Deslauriers et Francine Forget.
Couleur arc-en-ciel et puis tout, j'ai fait mon bout. Ça y
Le party est pogné. C'était la chanson « Tu fais ton ménage » que nous chantait Flavie.
Quel choix de chanson pour présenter Serge Hamelin.
Oui.
Qui va nous parler de lavage et microfibres.
Ben oui, j'ai découvert ça.
Je suis un peu content que ce n'est pas moi qui fais cette chronique-là, parce que j'aurais beaucoup de difficulté avec le mot microfibre.
Ah bon?
Il y a beaucoup de R.
Ah oui, bon, on va changer pour microplastique d'abord.
OK. OK. C'est déjà arrivé, ça m'est arrivé quand j'étais assis sur votre chaise,
oui,
qu'une collègue avait fait une chronique sur les microplastiques, les billes, là, les microbilles de,
ah, les micro...
dans la mer.
Ah oui.
Puis je pense que ça, votre article touche un peu à ça.
Bon, écoutez, moi, c'est un petit peu compliqué cet article-là. J'ai hésité avant de vous le présenter cette semaine. On est rendu dans des détails de pollution, là, ça finit plus. On est rendu au microplastique là, comme pollution.
Ouais.
C'est petit, cela, là.
C'est hein? petit, mais bon, ça a des conséquences énormes.
Ben oui, oui, ben oui, parce que le poisson mange ça, puis ça se retrouve dans nos assiettes.
C'est ça.
Ils disent, mais c'est pas tous les poissons qui mangent ça. Bref, je vais vous lire un peu hein, ce qui est écrit ici, parce que c'est un peu technique, là.
Oui, ça, c'est dans,
revue Protégez-vous, un article qui a été écrit par Nathalie Cunard. Bon, alors plus du tiers des microplastiques trouvés dans les océans proviennent de nos vêtements. Et heureusement, des solutions existent pour contrer cette pollution sournoise. C'est bon.
OK, donc on va parler de bonnes choses.
Oh oui, bien sûr. Ben oui, ben de mauvaises choses, puis de bonnes choses.
De comment on peut contrecarrer ça.
Alors, saviez-vous qu'une seule brassée de vêtements en acrylique libérerait environ 700 000 fibres de textile et qu'une partie de celles-ci finissent leur course dans les cours d'eau sous forme de microplastique? On ne savait pas ça, hein? C'est une question qu'on nous pose ici. Eh bien, ces particules de moins de 5 mm se détachent du textile à cause de la friction et sont évacuées avec l'eau de lavage. Selon OceanWise, un organisme à but non lucratif engagé dans la protection des océans, chaque ménage moyen de 2 adultes et de 2 enfants aux États-Unis et au Canada rejette annuellement dans les égouts 533 millions de microfibres, soit l'équivalent de 180 millilitres de couscous cru provenant de sa laveuse.
Bon, 180
millilitres de couscous cru provenant de sa laveuse. Bon, okay. Essayez pas de compter, c'est pas grave. Okay. Si environ 95...
Je suis un statisticien à la base, il faut que je compte.
Bon, un quart de litre.
Dans ces eaux-là.
Bon. Alors, si environ 95% de ces microparticules sont capturées par les stations d'épuration des eaux usées, la part restante se retrouve tout de même dans les océans chaque année. Et en additionnant les rejets de tous les ménages d'Amérique du Nord, on parle de quelque 878 tonnes au total, ce qui équivaut au poids de 10 baleines bleues d'après OceanWise.
J'ai une question, Serge.
Oui, ça te manque.
Le premier lavage, je me retiens cette semaine, j'ai pas trop droit de parole, on me l'interdit un peu.
Ben, c'est pas, j'ai juste 9 minutes.
Non, ma question c'est que oui, il y a un rejet, mais à force de laver, j'imagine que ça diminue ce rejet-là.
Eh oui, alors c'est une des solutions, c'est que quand on va laver, faut pas laver du linge neuf, faut acheter du linge usagé.
Ah.
C'est bon.
Ou bien on porte notre linge neuf longtemps, ça devient usagé, puis là, on le lave.
Ah, oui, mais là, il y a plus de microfibres, je pense qu'ils vont se détacher. Alors là, voilà,
Mathieu,
c'est
ça. À la console, se prend la tête à deux mains, découragé.
Bon, écoutez, c'est juste une information que je vous donne cette semaine dans la revue Protégez-vous pour savoir que ça existe, des microplastiques, que ça s'en va dans les océans. Est-ce qu'il y a un moyen d'en enlever? Ben oui, il existe des moyens, mais ce n'est pas encore au point. Parce qu'il y a le filtre qu'on peut installer autour de sa laveuse, mais ça prend un grand espace autour pour pouvoir, puis ça prend un plombier qui vient de vous installer ça, donc c'est un peu compliqué ce filtre-là, c'est pas encore au point.
Est-ce que ça laisse supposer qu'éventuellement les laveuses auront le filtre déjà installé?
Ils travaillent là-dessus. On est conscient maintenant de ça et on travaille là-dessus. Cependant, vous pouvez acheter un sac Goopy Friend qui est vendu à $34.95 US sur le site. Alors, à ce moment-là, vous mettez le linge dans le sac et le sac, lui, il est fait de maille très, 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 très mince, très, très petit. Et ça capture les microfibres et les microplastiques.
Et est-ce que le linge est bien lavé aussi?
Oui, on n'en parle pas de ça, mais sauf que le sac va durer seulement une cinquantaine de lavages. Alors, il faut changer de sac. Mmh. Alors, il y a l'autre solution, c'est le Cora Bulk. Ce détail à 52 $ canadiens sur le site web de son fabricant. On met ça dans la laveuse et puis ça capture les fibres avant que ça...
C'est une balle qu'on met dans
C'est
la
une
laveuse?
Balle qui ressemble à, tu sais, au virus, la COVID. Ouais, intéressant. Hein?
Donc, il y a des petites aspérités.
Oui, il y a des aspérités, puis ça accroche. Maintenant, il n'y a pas juste la laveuse qui dégage des microfibres, il y a la sécheuse aussi.
Mm-hmm.
Et ça, on ne savait pas ça. Alors, contrairement aux machines à laver, les sécheuses sont déjà équipées d'un filtre servant à récolter les microfibres. Mais malgré cela, une étude publiée en 2022 par l'American Chemical Society, le séchage libérait 40 fois plus de microfibres par vêtement que le lavage, et ces particules se répandraient dans l'atmosphère. Et puis, un foyer canadien émettrait ainsi dans l'air entre 900 millions et 1 milliard 200 millions de microfibres par cycle de séchage. Alors, on rit plus. Et puis là, ben, ça rentre dans nos poumons, puis ça attaque un peu les poumons.
Donc, ça aurait un effet direct sur nous, si je comprends
bien.
Oui,
ça a un effet direct quand vous faites sécher du linge. Alors, 5 conseils pour rejeter moins de microfibres.
Oui.
Parce qu'il ne doit pas me rester beaucoup de temps.
Il reste en... Oui.
Oui. Alors, 5 conseils, c'est laver les textiles moins souvent. Acheter des vêtements de qualité, plus résistants. Privilégier les vêtements usagés, car ce sont les premiers lavages qui génèrent le plus de microfibres.
Mm-hmm.
Laver et essorer les vêtements à l'eau froide, au cycle délicat, et ce cycle permet de réduire de 30% la libération des microfibres.
Oh, parce que ça brasse moins, c'est ça?
Puis la chaleur va faire que ça détache
ça
plus facilement. Alors l'eau froide va faire en sorte que ça se détache moins.
Mm-hmm.
Et puis, séchez vos vêtements à l'air libre le plus possible, parce qu'on vient de parler de la sécheuse qui libérerait plus de microfibres. Voilà. Maintenant, il y a d'autres astuces aussi.
Est-ce qu'on parle dans votre article, on parle de la sécheuse qui libère beaucoup de microfibres?
Oui.
Les choses pour rattraper les microfibres,
ouais.
Les
auteurs canadiens,
merci,
ouais.
Merci.
Ouais, ouais, ouais.
Est-ce qu'ils sont assez efficaces?
On est en train d'en mettre au point. Les auteurs canadiens, américains et chinois de l'étude sur les microfibres de la sécheuse tirent la sonnette d'alarme. Il faut mettre au point de meilleurs filtres ainsi que des stratégies de contrôle pour diminuer la pollution atmosphérique par les microfibres provenant des sécheuses. Si on installe un filtre pour microfibres, le problème, c'est qu'à un moment donné, c'est plein.
Oui.
Puis on ne le sait pas. C'est l'équivalent d'une boule, hein, ça fait une boule. Et puis là, il faut... Et puis si c'est plein, ben ça peut bloquer.
Je comprends.
Puis là, on est en train de travailler à installer ces filtres-là pour qu'il y ait une sonnette, un petit ding-ding.
Okay.
Parce que c'est plein. Videz votre... On n'en est pas rendu là encore.
Hmm.
Alors, tout ça pour dire qu'il existe donc des microplastiques qui se dégagent du linge quand on fait... Il y a beaucoup de pollution, hein, finalement.
Oui, mais ce que j'entends de votre article, c'est que dans ce cas-là, on y travaille, il y a des solutions.
Et voilà.
On peut penser à des solutions actuelles, mais aussi des solutions plus structurelles à l'intérieur des laveuses et des sécheuses.
Les solutions, là, c'est ça. Il existe le filtre qui est un peu plus compliqué, là, et puis il y a le sac Goopy Friend, puis il y a le Cora Ball que je vous ai parlé. Donc, si vous êtes vraiment intéressé à combattre le microfibre et le microplastique, ben, il existe quelques solutions.
Excellent. C'était un article assez difficile à lire, mais en même temps, combien intéressant.
Oui.
Merci beaucoup, Serge, de nous avoir éclairé là-dessus.
D'accord.
Et oui, soyez...
Oui.
Bon. Vous avez fait un bon
c'est
travail.
C'est l'équivalent de 4 baleines bleues, hein, quand même, hein, dans l'océan.
Oui, dans la cour, là, ça prend de la place.
Quand la vie me pogne et pique, je m'en vais me trancher de molle en famille. Au tableau des nouveautés, y'a jamais rien qui me situe. Même quand j'ai
juger autant que vous voudrez, mais c'est moi qui décide. Il y a un beau nous inventer mille et une nouvelles saveurs exotiques. Moi, c'est un dossier réglé, je vais toujours prendre une molle twist, venez, venez.
Molle Twist, Vanille, Vanille. C'était Blue Jeans Bleu.
Quelle belle chanson pour introduire votre chronique, Marcel Dugas.
Tout à fait.
Oui,
bonjour.
Parce que, comme on dit en bon français, ça avait l'air de swinguer dans le village de squatteurs dont vous allez nous parler aujourd'hui.
Oui, ben, il y a quelques mois de ça, à l'émission, j'avais consacré une de mes chroniques à la colonisation de l'Abitibi par les Blancs. Et j'étais tombé sur une histoire fort intéressante que je n'avais pas eu le temps d'aborder à ce moment-là. Plusieurs des villes de l'Abitibi actuelle doivent à tout le moins en partie leur existence à l'industrie minière. Il peut s'agir de villes champignons, donc des villes qui poussent très rapidement et souvent de manière désorganisée quand beaucoup de gens affluent, par exemple suite à l'ouverture d'une nouvelle mine, ou encore vous avez des villes de compagnie, donc une entreprise qui se construit une ville dortoir, mais cette fois-ci au sens propre de l'expression, pour ses travailleurs. Là, en règle générale, vous aviez un plan de développement municipal, les maisons sont souvent toutes pareilles. Et tant que la population n'est pas trop importante, vous avez un magasin en ville qui est propriété de la compagnie, et les mineurs étaient souvent à tout le moins en partie payés en coupons échangeables au magasin. On imagine facilement le genre d'abus que ça pouvait entraîner. Un commerce en situation de monopole pouvait charger les prix qu'il voulait pour les denrées. Il n'était pas rare de voir des travailleurs avoir un solde négatif à la fin de la semaine. Leur salaire ne couvrait pas l'ensemble des dépenses qu'ils engageaient envers la société qui les employait. Et un bon exemple de ces deux modes de développement, ce sont Rouen et Noranda, qui ont été des villes distinctes jusqu'en 1986. Rouen s'est développé au départ après la découverte d'un important gisement de cuivre et d'or près du lac Ossisco. Ça avait provoqué une ruée vers la région. Mais ça s'est fait un peu à la va comme je te pousse, alors qu'à côté, Noranda, ben c'était la ville de la Noranda Mines Limited, compagnie américano-anglo-canadienne basée à Toronto qui exploitait la mine. Et la ville appartenait pas en totalité à la minière, mais elle y disposait de pouvoirs étendus. Mais il y a aussi un autre modèle de développement. Les années 1920-1930 verront la naissance de plusieurs villages de squatters. Donc, plutôt que de s'acheter ou d'obtenir un lot, on choisit un terrain qui ne nous appartient pas et on se construit une maison à la mesure de nos moyens.
Et on laissait faire ça?
En fait, c'est que souvent, ça se développait. Évidemment, on parle d'une région comme ça, ça s'est beaucoup fait en Abitibi. Je ne vous dis pas que ça se faisait régulièrement dans les grands centres où on avait un meilleur contrôle sur la population, une proximité des forces policières et tout ça. Dans un endroit comme ça, souvent, ça prenait un peu de temps avant qu'on se rende compte qu'il se développait une nouvelle communauté de squatters. On n'avait pas nécessairement à portée de main les ressources pour aller démanteler ça. Et une fois que c'était fait, on avait tendance à laisser faire et espérer qu'un jour, les gens se tanneraient et quitteraient par eux-mêmes. Donc, il n'était pas rare de voir, des fois, vous aviez un squatter à un endroit en particulier, mais vous pouviez aussi voir des concentrations, des nouveaux villages qui émergeaient comme ça. Et un des plus importants villages de squatteurs de l'Abitibi, un de ceux qui a eu l'existence la plus mouvementée, s'est appelé de plusieurs manières, mais est passé à la postérité sous le nom de Roc d'Or, donc Roc, R-O-C, d'Or. À la fin des années 1930, il y a quatre compagnies minières qui s'installent coup sur coup autour de Malartic. Et comme certaines d'entre elles se créent des villages de compagnie pour héberger les travailleurs, mais à partir de 1936, il y a un nombre croissant de gens venus travailler dans les différentes mines de la région qui vont s'installer sans titre de propriété sur des terres de la couronne au nord de Malartic, le long de la route qui mène à Rouen et Noranda. Et Roc d'Or va rapidement voir sa population passer de 175 à 800 et va dépasser le millier d'habitants au début des années 1940.
Ce qui était beaucoup, j'imagine, par rapport aux municipalités et villages qui entouraient.
Bien, pour l'Abitibi, à l'époque, effectivement, c'était un des gros centres de population de la région. Et vraiment, c'était un vrai village. Il y avait restaurants, hôtels, épiceries, magasins généraux. On avait une salle de billard, deux barbiers, un poste d'essence. Il manquait quelques petites choses. Par contre, une église, entre autres. C'est étonnant pour un village, surtout canadien-français, des années 1930 et 1940. Et ça a ajouté à la réputation salace de Roc d'Or que les gens des environs, les résidents de Malartic tout spécialement, avaient surnommé Putainville, n'est-ce pas? Il y avait des familles dans le village, mais une forte proportion de la population était composée d'hommes célibataires qui pratiquaient des métiers très durs physiquement, très dangereux. Ils ne passaient pas, on s'en doute, tout leur temps libre à dire leur chapelet. Et un rapport de police rédigé dans les tout débuts de Roc d'Or faisait état de 25 personnes qui vendaient illégalement de l'alcool et 9 prostituées sur une population de 175 habitants.
Pourcentage important.
Mais c'est un ratio de vie dissolue pour la population qui est quand même très élevé. Et tout au long de sa courte existence, Roc d'Or a été marqué du sceau du libertinage, des salons de jeux clandestins, des débits de boissons clandestins, la police de l'alcool qui était chargée à ce moment-là de lutter contre le trafic d'alcool a fait de nombreuses descentes à Roc d'Or. Jacques Miquelon, qui a plus tard été député ministre de l'Union nationale sous Maurice Duplessis, disait dans ses mémoires que les gens qui fréquentaient les bordels de Roc d'Or le faisaient très ouvertement. Là, je le cite. Les clients s'y rendent comme ils vont à l'épicerie, à la pharmacie ou à la banque et, sauf les âmes dévotes, personne ne s'en scandalise. Toutefois, vivre dans un lieu exempt d'opprobre social à propos des vices, bien, ça ne remplace pas certains services de base, comme par exemple les égouts et l'eau courante. Roc d'Or étant techniquement un village illégal, on n'a jamais bénéficié de ce genre d'infrastructure municipale et les résidents et résidentes ont fait des demandes répétées au gouvernement provincial pour devenir véritablement une municipalité. Ils essuient refus après refus. Et en 1942, le ministère des Terres et Forêts décide de vider la question. On envoie des fonctionnaires enquêter sur place et la conclusion de l'enquête, on a décidé qu'il fallait rayer le village de la carte purement et simplement. Pourquoi? D'abord, les enquêteurs ont été frappés par la pauvreté et l'insalubrité des lieux. Beaucoup de gens squattaient des terrains parce qu'ils n'avaient pas les moyens de s'installer ailleurs. Et sans services municipaux dignes de ce nom, ben, on se débarrasse des eaux usées et des déchets comme on peut. Les logements étaient surpeuplés, envahis par la vermine. On disait dans le rapport qu'une porcherie bien tenue serait plus propre que bien des logements de Roc d'Or. Ce qui n'était pas, remarquez bien, une situation unique au village. On aurait pu aller enquêter dans bien des quartiers de Montréal, de Québec ou d'ailleurs chez les gens qui vivaient dans la précarité. On aurait dressé à peu près le même portrait. On disait aussi que les enfants du village étaient abrutis et hébétés et qu'ils avaient besoin d'interventions rapides pour ne pas finir à l'asile ou au pénitencier. Évidemment, c'est un vocabulaire qu'on utilise moins aujourd'hui, tous ces termes-là. Donc ça, ça a été un facteur. Roc d'Or comptait aussi beaucoup d'ennemis à Malartic. On n'appréciait pas outre mesure cette voisine bruyante, dérangeante, malpropre. Le curé de Malartic faisait des cauchemars en pensant à tous les péchés qui se commettaient à Roc d'Or. Et les sociétés minières dénonçaient aussi l'existence du village qui corrompait les mœurs des travailleurs. Avec la boisson, le travail du sexe, oui, mais ce qui dérangeait surtout les compagnies minières, c'est qu'on considérait Roc d'Or comme un foyer de syndicalisme. Toutes ces personnes et organisations avaient l'oreille du gouvernement. Il y avait aussi des questions budgétaires qui entraient en ligne de compte. Peu de temps avant, il y a un village en situation irrégulière qui s'appelait Rouyn-Sud, qui avait été annexé à Rouyn. Et presque dès le départ, le maire de Rouyn était à Québec pour se plaindre du fardeau que le nouveau quartier représentait pour sa ville et pour demander des subsides gouvernementaux. On était bien décidé à ne pas refaire la même erreur, surtout qu'il existait plusieurs autres villages de squatters dans la région. On ne voulait pas laisser proliférer ça un peu partout. Et plutôt que d'agrandir Malartic pour inclure Roc d'Or, on a déménagé Roc d'Or dans Malartic. Les constructions qui étaient en assez bon état, 156 en tout, ont été déplacées. Ce qui tenait à peine debout déjà au départ, les taudis, tout ça, ont été détruits. Il y en a une centaine de constructions au total qui ont été détruites. Encore une fois, c'était un village qui avait pris pas mal d'importance. Et en 1947, il ne restait pratiquement plus rien de la grouillante et libertine Roc d'Or, alias Putainville, sinon les souvenirs de ses résidentes et ses résidents.
Je comprends, Marcel, que les gens ont suivi, en fait, leur habitation. Là. Ils n'ont pas résisté.
Bien, ça a été un long processus. Les gens tenaient vraiment, espéraient pouvoir garder cet esprit de communauté-là qui s'était créé à Roc d'Or, mais le gouvernement s'est montré intraitable et même ça a pris plusieurs années, effectivement. On voulait pas agrandir Malartic, aller placer des services municipaux, par exemple les égouts, dans l'extension de Roc d'Or. On a fait déménager les gens à l'intérieur de la ville.
Mais merci beaucoup, Marcel. On se retrouve la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Alors, on part de l'Abitibi pour s'en aller sur la côte nord, mais disons que le contexte est pas mal mieux. Je vous parle du premier salon de la personne handicapée de la côte nord. Ce salon qui se tient en deux lieux, ça a débuté la semaine dernière. Le salon était à Baie-Comeau et le 17 septembre, donc samedi, ce sera à Sept-Îles. L'association, la table de concertation des associations de personnes handicapées de la Côte-Nord a organisé ce salon-là et le but, c'est d'ouvrir à tous les services offerts, de montrer finalement, de mettre en lumière les différents services qui peuvent être mis à la disposition des personnes handicapées, de même que toutes les ressources. Alors évidemment, c'est une initiative qui est très bien accueillie. Je vous parle d'une autre courte par actualité, la place du handicap dans la société. Si jamais ça vous intéresse, c'est sur le site de l'Université d'Ottawa.ca. C'est un bilan qui a été réalisé par Statistique Canada. Ça date de 2017, au moment où on l'a fait. Il y a une personne sur cinq de la population canadienne âgée de 15 ans et plus. Donc, ça fait plus de 6 millions d'habitants, d'individus qui ont un ou plusieurs handicaps. Et Carly Fox, qui s'est intéressée à cette statistique-là, puisqu'elle est elle-même atteinte, elle a reçu un diagnostic d'arthrite juvénile idiopathique à 16 ans. A développé un blog où elle parle de toutes sortes de réalités qui touchent les personnes qui ont des handicaps ou diagnostics. Dans ce qui suit à venir, dans la dernière demi-heure, bien après la pause, je vous parle techno et Yvan va s'entretenir avec Steve Joseph de la Fondation des aveugles du Québec qui a toutes sortes de bonnes nouvelles à lui annoncer.
Oui, en fait, je veux juste, on a un petit peu de temps, alors je veux juste parler. J'ai parlé à M. Joseph cette semaine et comme dans plusieurs organismes et associations, c'est le début de la saison d'automne qui commence. Et on va découvrir que la Fondation a des habitations qui sont adaptées aux personnes qui vivent avec un handicap visuel. Et il va nous parler d'un programme de loisirs qui est offert pour ces personnes-là. Alors, c'est plus que juste offrir un logement, c'est offrir comme un milieu de vie. Alors, donc, soyez avec nous dans quelques instants. On va parler de ça. Et il va aussi nous parler du lancement de la saison loisirs jeunesse. Une des choses que la Fondation fait particulièrement bien, c'est de faire découvrir à des jeunes qui ont des problèmes visuels des sports qu'ils n'auraient pas soupçonné qu'ils pourraient pratiquer. Alors, attends un peu.
Vous écoutez Au quotidien, 5e édition, avec Yvan Deslauriers et Francine Forget.
Et Francine, vous allez nous parler de quelque chose qui m'est un petit peu mystérieux et inconnu, même si je paye pour, c'est la vitesse Internet.
Bien, c'est un peu un mystère pour tout le monde, hein? Comment se fait-il qu'on doit rouler de plus en plus vite sur l'autoroute de l'Internet?
Oui.
Alors qu'il me semble qu'on se dit par ailleurs qu'il faut réduire notre vitesse. Là. c'est oui,
oui une
mais
contradiction, là, oui.
Bon, On a ce besoin-là, probablement. Et c'est justement, on a tendance à surestimer la vitesse de connexion dont on a besoin et par conséquent, à payer trop cher pour rien.
Ben, déjà, en Amérique, on paye cher.
Je dirais au Canada.
Oui, le Canada fait partie de l'Amérique encore.
Non, mais c'est parce que si, par exemple, vous comparez...
Avec les États-Unis, vous voulez dire?
Exactement. Moi, pendant un certain temps, comme j'avais une fille qui étudiait à New York, on était en mesure de comparer nos forfaits, puis je vais vous dire qu'on payait 3 fois le prix sur une base mensuelle.
Mm-hmm.
Puis c'est pour des services plus limités.
Oui, puis c'est un problème qui est clairement identifié. Les partis politiques fédéraux en avaient déjà parlé dans des campagnes électorales et on ne peut pas dire qu'on en a vu de grosses différences.
Les fournisseurs de services ne tendent pas l'oreille. On en parle. Et ils continuent à faire pas mal ce qu'ils veulent. Et quand ils se font imposer certaines limitations par le CRTC, mm-hmm. ils ont toujours un moyen de réagir qui fait qu'ils ne seront pas trop perdants. Et qu'on a l'air d'être gagnant.
Donc,
c'est la réalité. Je ne sais pas si un jour on trouvera le moyen de les mettre au pas, finalement. J'hésite pas à utiliser ces termes-là mm-hmm. parce que on paye trop cher.
Mm-hmm.
Marc-André Sabourin en a parlé dans l'actualité.com. Alors, c'est ce qui m'a amené le faire moi-même aujourd'hui en s'appuyant sur Plan Hub. Plan Hub, PLANHUB. Alors, vous pouvez le googler. J'en ai parlé à quelques reprises à cette antenne parce que c'est un lieu où on est capable de comparer les offres des différents fournisseurs. Plan Hub, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, était vraiment axé sur les forfaits cellulaires qu'on appelle. Maintenant, il développe son expertise sur d'autres domaines et l'Internet en fait partie. Depuis quelques années, on ne cesse d'augmenter, je dirais, nos besoins hein, avec l'Internet. Bon, plus de jeux en ligne, nos téléphones qui sont de plus en plus gourmands. On veut avoir du visionnement en continu. On a des tablettes, du télétravail, donc différents équipements, les applications. On est toujours en train de mettre des applications. D'ailleurs, je vous recommande de faire du ménage une fois par mois. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, on a besoin d'une application dans un contexte particulier et après, on n'en a plus besoin.
Mm-hmm.
Éliminons-la. Et on pourra la remettre, si on veut, éventuellement, si on en a besoin.
Oui, c'est intéressant.
Alors, le cofondateur de Plan Hub, Nadir Marcos, dit qu'on surestime la vitesse nécessaire. La meilleure façon d'économiser son forfait, c'est de comprendre ses besoins pour éviter de payer trop cher pour rien. Alors, je vous vois là aller sur votre tablette,
oui,
mon cher Yvan. Alors, vous êtes sur Plan Hub. Alors, sur Plan Hub, il y a vraiment une section qui est consacrée à la vitesse d'Internet. Est-ce que c'est nouveau, des fournisseurs qui sont capables de nous aider dans notre choix? Non. Il y en a, Fitz, E-Box, etc. Ils donnent des conseils pour choisir le débit idéal. Mais souvent, ils vont s'appuyer sur le choix populaire.
C'est-à-dire?
Celui qui est le plus utilisé, celui qui est le plus fréquenté pendant un certain temps.
D'accord.
Parce qu'il y a des mouvances là-dedans. À un moment donné, on est très, très belle. Puis après ça, on migre un peu vers Rogers. Puis après ça, on essaye Fido, qui de toute façon est Rogers. Mais bon, on a l'impression que non. Ou Virgin, qui est... Bon, mm-hmm. c'est, mm-hmm. On suit un peu l'immigration, mais après ça, on revient... parce qu'on se rend compte que les avantages premiers, ben des fois, ils s'effritent un petit peu en cours de route. L'avantage de Plan Hub, c'est qu'on va sur les besoins personnels. Donc, les conseils sont individualisés. Dans la page où vous êtes, on voit que on pose un certain nombre de questions. Des questions sur le nombre d'appareils qu'on a à la maison, notre qualité vidéo, est-ce qu'on est en HD ou pas, la fréquence des jeux. Est-ce qu'on est des gros joueurs en ligne ou pas, si c'est occasionnel? Les téléchargements, est-ce qu'on en fait beaucoup? C'est toutes des questions auxquelles on nous invite à répondre. Et après ça, bien, on va pouvoir aller vers les forfaits qui nous conviennent et on va aussi, on pourra cliquer sur forfait moins cher et ça va nous amener vers le fournisseur de services. Et on peut déjà, si on veut, parce qu'il y a le bouton à droite qui nous permet d'accéder uniquement, voyons, rapidement à ce fournisseur. D'ailleurs, j'en profite à chaque fois que je parle de plan Hub parce que c'est important d'en parler, leur comment ils font pour vivre, parce que ça leur prend du financement. Mm-hmm. Il faut savoir que oui,
il y a des
les fournisseurs de services sont là, sont présents et ils payent pour être là. Okay. Ils payent pour s'afficher, ils payent aussi pour avoir justement ce fameux bouton qui va nous amener directement à leur site et à l'endroit idéal pour faire les modifications. Voilà. Alors donc, selon l'âge des ordinateurs, des téléphones et autres appareils qu'on utilise, il est possible de passer d'une vitesse de téléchargement qui va être pas mal loin des connexions que vous avez jusqu'à maintenant. Parce que dans la publicité, dans toute la publicité de tous les fournisseurs, on est toujours en train de vous dire que vous devez
changer le téléphone.
Mais oui, rehausser. Oui, mm-hmm. Ça, c'est avec l'achat d'un nouveau téléphone. Et quand vous dites non, comme c'est ce que je vis présentement, on est toujours en train de m'ajouter un petit 20 mégabits gratuit, mais quand on fait ça, après ça, on me propose quelque chose qui pourrait être pas mal moins cher, et là, j'en aurais 50 de plus. Mais j'en ai tellement maintenant que je peux même utiliser mon téléphone comme fournisseur Internet. Là, vous savez comment fonctionner. On peut utiliser notre forfait téléphone et le transférer sur un autre appareil rapidement.
Donc, faire un partage?
Faire un partage, et à ce moment-là, ben normalement, hein, ça gruge, comme on dit. Mais là, j'ai plus à m'en préoccuper parce qu'ils m'en ont tellement donné et il y a plusieurs fournisseurs qui font ça présentement. Alors, pourquoi pas vérifier avec Plan Hub ce dont on a besoin, PLANHUB.
Est-ce que vous savez si, quand on a une hypothèque, on ne peut pas changer d'hypothèque facilement à mi-parcours parce qu'il y a des pénalités importantes dans le domaine de la téléphonie cellulaire puis Internet? Est-ce qu'il y a des contraintes de ce genre-là?
Vous avez des contrats parfois, oui. Hein, n'est-ce pas? Oui. Surtout maintenant avec la nouvelle façon de faire, on vous loue le téléphone
deux ans,
vous avez un contrat. Cependant, on peut rehausser le contrat, mais on peut aussi changer, modifier certaines choses au niveau du plan comme tel mensuel.
Mm-hmm.
Puis des fois, peut-être que ça va parce qu'il y a deux parties dans votre contrat, hein, la partie téléphone, puis ensuite, votre partie forfait.
Oui, tout à fait.
Ouais.
Gros merci, Francine, de nous avoir éclairé dans ce sujet si nébuleux. De la troisième dimension.
La chanson « Monde virtuel » que chantait M.
Merci beaucoup, Mathieu. Et je me tourne vers Steve Joseph, qui est directeur des services aux loisirs de la Fondation des aveugles du Québec. Bonjour, Steve.
Bonjour, comment ça va?
Ça va bien, merci. Et vous?
Ah, ben ça va super bien, merci. Comme d'habitude.
Oui, je... c'est presque une question inutile dans votre cas. On a parlé cette semaine, en préparant l'émission, de calendrier des loisirs habitation. Et sur votre site, c'est écrit « loisirs locataires ». Est-ce que c'est la même chose?
C'est la même chose, c'est la même chose. C'est juste que moi, j'ai je dis habitation, il y en a qui vont dire locataire, mais c'est dans le fond, c'est nos locataires de nos habitations.
Oui, donc, oui, c'est ça.
Voilà. Mais c'est la même chose, oui, en effet.
Oui, j'ai découvert par notre conversation cette semaine et par le site que vous êtes des propriétaires, en fait.
Non, pas du tout. Dans le fond, on gère cinq. Pour l'instant, on a un parc immobilier, mettons, qu'on gère parce que c'est des arrangements avec la Société d'habitation du Québec. Et puis, pour les conditions pour habiter chez nous, évidemment, il y a une liste de demandeurs qui est faite à la Fondation des aveugles. On peut tout simplement aller sur notre ligne info et puis ou bien appeler à la Fondation des aveugles du Québec directement. Et puis, on va vous donner toutes les informations pour vous mettre sur la liste de demandeurs.
Allez-y. Oui. Allez-y.
Donc, on a cinq blocs d'habitation qui sont situés pas mal dans l'est de la ville. Donc, on parle de à partir de Bennett jusqu'à un kilomètre à l'est du métro Honoré-Bongrand. Donc, on en a un sur Bennett-Hochelaga, un autre sur 39e et Bellechasse. Il y en a un autre sur Paulpeau. Ça, c'est notre plus gros, c'est notre dernier qu'on a eu en 2020. Mm-hmm. Donc, c'est on parle de Paulpeau et
Sherbrooke, il me semble.
Exactement. 39 appartements, celle-là. Et il y en a un autre sur, je crois que c'est, je me souviens plus de la rue, là, mais c'est Sainte-Claire. Il fait comme un genre de U Sainte-Claire du Chêneau, c'est ça, du Chêneau. Et puis il y en a un autre, Aubry, c'est ça. C'est Aubry, oui, je pense que c'est Aubry. Puis, on a un 12 sur Pierre-Bernard et Hochelaga aussi. Tous ceux-là, mettons les trois que je viens de nommer, Sherbrooke, Pierre-Bernard et puis Aubry, Chêneau et tout ça, eux autres sont tous situés peut-être à 1, 1,2 km de distance. Donc, ça se fait tout à 5 minutes à pied. Là,
de la station de métro.
Blocs, là. Ben non,
non à pied, entre eux autres. Oui, oui,
exactement. Okay, station de métro, je te dirais 15 minutes à peu près.
Oui, c'est Honoré Beaugrand qui est dans ce coin-là.
Oui, exactement.
Non seulement vous gérez ces immeubles-là, mais vous fournissez aussi un programme de loisirs.
Exactement. Ça, c'est on a toujours fourni un programme de loisirs, genre des jeux pour Bennett qu'on avait depuis 2015, celui de Bennett et Hochelaga. Mais là, maintenant, on a, accentué notre offre de services. Et là, c'est des loisirs qu'on offre à tous nos logements. Donc, on a deux pôles aussi, hein. Donc, parce que nos salles communautaires, c'est celle de Sherbrooke, on a une belle salle communautaire, et celle de Bennett, une autre belle salle communautaire. Donc, les gens sont invités à aller dans toutes les pôles qu'ils veulent, dans les deux pôles qu'ils veulent, mais c'est tous nos logements qui peuvent visiter, toutes nos qui peuvent faire, mettons, tous nos loisirs.
Je comprends.
Et de plus, dans nos salles de loisirs, on a rajouté depuis le mois de mars dernier, qu'on a, grâce à la santé publique nous a permis de recommencer nos loisirs. Donc, on a des salles de gym, de conditionnement physique. Et on a eu plusieurs partenaires qui se sont impliqués là-dedans. Donc, les gens peuvent venir. Puis, c'est toujours, il y a toujours plein de monde, là. Ça roule, là. On a des ententes aussi avec les commerçants, mais les partenaires du quartier, exemple, les YMCA Montréal, qui envoient des bénévoles montrer aux gens ou accompagner les gens à faire du conditionnement physique et tout ça. Donc, c'est vraiment une belle organisation qu'on fait. Puis là, maintenant, on accentue encore plus notre offre de service en mettant des loisirs. Il va y avoir des loisirs automne.
Oui.
On a un calendrier complet qui se prépare. Et puis, là, il n'est pas canné. Le mercredi prochain, il va être canné. Fait que s'il y a des gens qui l'entendent... S'il y a des gens qui l'entendent, qui entendent des choses, « Ah oui, c'est quoi ça? » Vous allez tout recevoir ça. Ça va être sur notre site internet aveugle.org, fondationdesaveugles.org. Donc, c'est ça. On a, je vous dirais qu'il va y avoir des nouveautés. Puis on va faire aussi beaucoup plus d'activités dans la communauté. Donc, on va pouvoir aller, exemple, au bowling. On va avoir même du yoga qui va se faire en présentiel. On va avoir des cours de cuisine. Il va avoir, évidemment, comme je disais tout à l'heure, les conditionnements physiques. Mm-hmm. Et en mm-hmm. plus de ça, là, tu vois, on a des incontournables aussi qu'on va faire, comme aller aux pommes avec eux autres. On va vraiment offrir quelque chose. Même le 22 octobre, on va avoir une sortie aux Alouettes. On va aller voir les Alouettes. C'est un programme qui va être assez rempli. Puis, je vous dirais que en plus de ça, il va y avoir des sorties spéciales ou des activités spéciales qui vont se rajouter au courant de l'année.
Donc, j'encourage nos auditeurs à bien regarder votre page de la Fondation des aveugles du Québec pour être bien informés des prochaines activités à venir. Et mon cher Steve, la prochaine fois qu'on se parle, dans un mois, là, on va falloir parler de la saison loisirs jeunesse. Ça aussi, c'est plein, c'est rempli d'activités.
Oui, puis là, on a déjà commencé nos inscriptions. Rapidement, je te dis, on a commencé nos inscriptions, puis déjà, nos inscriptions sont quasiment toutes remplies, là, sont toutes pleines. Là. Donc, on va être dedans. La prochaine fois qu'on va se parler, on va être dedans. Là. On va, parce que le 25, on commence avec nos pommes. Là. On s'en va aux pommes, puis après ça, ça roule. Et même un week-end à Ottawa, comme je t'avais déjà parlé.
Oui, exactement. Alors, on se laisse ici, mais on se donne un rendez-vous dans un mois, puis je pense que les sujets de conversation ne manqueront pas. Alors, merci beaucoup, Steve Joseph, de la Fondation des aveugles du Québec. Manquez pas leur site pour être au courant de tout ce qui s'en vient de ce côté-là. Merci.
Les feuilles poussent comme toi. Elles cherchent pas comment pousser plus vite. Elles ont leur rythme, c'est comme ça. Peu importe en quoi tu crois, les feuilles changent comme toi. Qui garderont pas tes gros muscles, ils vont finir par dégonfler. Et ta peau, c'est pas les crèmes qui vont la sauver. Par les vagues de matière en matière. On n'arrive pas à laisser faire tout ce qu'on peut pas contrôler. On n'arrive pas à laisser faire tout ce qu'on peut pas contrôler. Alors je regarde tomber.
C'était Michel Robichaud qui chantait de matière en matière.
Puis on regarde les arbres pousser, les feuilles tomber.
Et les cheveux pousser aussi.
Les cheveux pousser. Ouais. J'étais pas tout à fait attentif. Non. On se tourne vers Francine pour savoir qu'est-ce qui va vous intéresser dans la fin de semaine qui s'en vient.
Dans la fin de semaine qui s'en vient, j'ose encore des activités extérieures. Je me dis quelques petites gouttes de pluie, c'est pas ça qui va nous déranger. Alors, je vous invite à aller à la Place des Souhaits. La Place des Souhaits, c'est un marché asiatique temporaire, coin René-Lévesque et Saint-Laurent, donc côté sud-est de René-Lévesque.
Avec l'Arche?
Et on est dans le quartier chinois, tout à fait. Alors, c'est un lieu de rendez-vous, de croisement de culture asiatique, parce qu'on a de tout, hein? On a de la Thaïlande, on a de la Chine, on a du Japon. Nourriture, petit spectacle. Je suis allée dimanche dernier et il y avait vraiment un très beau... pas si c'était un concert classique, mais ça avait une consonance musique classique. C'était vraiment très intéressant. C'était à la fois, je vous dirais, inspirant et reposant. Cette initiative du marché de Place des Souhaits, ça fait partie de la revitalisation du quartier chinois.
Oui.
C'est un événement qui se tient, c'est comme je disais, c'est temporaire. Le 3 octobre, c'est la dernière journée, donc c'est encore temps d'y aller. Il n'y a pas vraiment de programmation comme telle. Ils ont une page Facebook, vous pouvez vous y rendre, mais en fait, sur le site, vous allez avoir une meilleure idée de ce qui se passe cette journée-là. Et dans ce plan d'action, bien, on voulait évidemment mettre en valeur le caractère distinctif du quartier chinois. Et ça vous permet, quand vous allez à la Place des Souhaits, de déambuler dans les rues du quartier et de prendre connaissance de l'histoire sur des grands panneaux de gens qui ont vraiment façonné ce quartier-là. Si on veut en savoir davantage, pour bien se préparer à cette visite, il y a un blog... blog.banq, donc c'est fait par la grande bibliothèque, .qc.ca, c'est sur le charme et l'exotisme du quartier chinois de Montréal, ou pour l'architecture, on peut se rendre sur le blog lafabriqueculturelle.tv, et à ce moment-là, on va pouvoir visionner des vidéos de la série Artefacts, qui parle justement de l'histoire du quartier chinois. Alors, c'est vraiment intéressant parce que non seulement on peut aller voir ces kiosques, manger tout ça, mais en même temps faire vraiment une activité, je dirais, de culture instructive et éducative.
Dans sa propre ville, chose qu'on fait assez rarement.
Assez rarement, effectivement. Maintenant, comme vous êtes dans le coin, je vous invite...
Dans ce coin-là, vous voulez dire?
Oui, vous êtes dans le coin. Effectivement, vous êtes rendu, vous avez terminé votre visite du quartier chinois. Vous êtes rendu au quartier des spectacles. Et sur l'esplanade, à compter de 18 heures, le 17, le 22, le 23 et le 24, donc le samedi de cette semaine et ensuite le week-end de la semaine prochaine... Vous pouvez aller danser de la samba, du country, du disco, toutes sortes de danses latines, puisque c'est une activité de danse dans le cadre du festival L'Art en soi. Activité de danse qui est animée par Philippe Fignoux à compter de 18 heures le soir. Et il y a aussi les midis dansants, 45 minutes des petites formations de danse.
Excellent.
On se délie les jambes un décor assez exceptionnel.
Puis, malgré une température qui va être un peu mouillée, hein, je pense.
Bien, on s'habille, puis il ne fera pas trop chaud, fait qu'on va pouvoir bouger plus vigoureusement.
Tout à fait. Moi, de mon côté, je vous parle du 24 heures de nettoyage en continu pour inciter les Montréalaises et Montréalais à nettoyer leur fleuve. C'est dans le cadre de la troisième édition de la Journée du fleuve. La mission 1000 tonnes durant 24 heures en continu nettoiera les berges du fleuve Saint-Laurent afin d'inciter les Montréalais et Montréalaises à participer au grand nettoyage des berges de l'île. Ça se passe demain, le 17 septembre. Cette activité s'inscrit dans la programmation de la Journée mondiale des nettoyages. Afin d'inspirer les Montréalais et Montréalaises à collaborer au nettoyage qui auront lieu dans 9 différents arrondissements de la ville, une équipe de la mission 1000 tonnes réalisera ce projet pendant 24 heures en continu en débutant la corvée dans la journée du vendredi 16 septembre. Le samedi 17 septembre, la population sera invitée à se joindre à l'équipe. L'objectif premier est de retirer un maximum de déchets des berges afin d'éviter qu'ils ne se retrouvent un jour dans nos océans ou encore dans notre eau potable. Cette grande journée vise également à mobiliser les citoyens afin qu'ils se mettent en action pour la protection de la planète et qu'ils prennent conscience de l'impact des produits qu'ils consomment au quotidien. Tous les détails des différents événements sont disponibles dans www.eco-quartier.org/ la journée du fleuve. Dans un autre ordre d'idées, je vous amène vers le site Espace où vous pouvez trouver une carte interactive pour suivre l'évolution des couleurs d'automne. Alors, avant de vous en aller du côté d'Orford, du côté des cantons de l'Est, du côté des Laurentides, vous pouvez aller voir où est-ce que s'en est rendu les couleurs et choisir en conséquence.
C'est bien. Il y a peut-être le Mont-Royal aussi là-dedans,
ben
pensez-vous?
Oui. Non, j'espère, bien sûr,
j'espère.
Bien sûr.
Parce que c'est toujours un bel endroit pour aller voir les couleurs. Eh bien, c'est fini. C'est fini, 20e émission.
Mon Dieu!
Quand même, hein?
On a une fête à célébrer?
Bien, nous, hein, chaque occasion est bonne.
C'est ça.
Merci à tous ceux qui font de cette émission, nous, en tout cas, un grand plaisir. J'espère
oui,
que vous partagez, chers auditeurs et auditrices. Merci à nos chroniqueurs. Merci à Mathieu Tessier. Mathieu Tessier, oui, c'est ça, j'ai dit son nom.
Lui.
La semaine dernière, c'est parce que je l'ai baptisé de toutes sortes de noms. Yvan, merci beaucoup. C'était un plaisir de vous revoir cette semaine.
Merci, chère Francine, et je serai avec vous la semaine prochaine.
Ah, bravo, bravo.
Au quotidien, 5e édition.